Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Pobody Oulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili. Transformer le karité en richesse, tel est l'objectif de la Conférence nationale karité qui organise depuis ce jeudi à Ouagadougou la deuxième édition du Salon international du karité de Ouagadougou sous le thème « Faire de la transformation des produits de karité un des principaux leviers de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté des femmes et des jeunes en contexte Covid-19 ». Le Festival international de la liberté d'expression et de presse FILEP va se tenir du 10 au 13 novembre prochain dans la capitale burkinabé. Les organisateurs ont donné l'information au cours d'une conférence de presse. Et puis, éliminatoire mondial 2022, les étalons du Burkina ont étrié les requins de la mer Rouge de Djibouti par 4-0. Pendant ce temps, l'Algérie bat le Niger par 6-1. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonjour madame, bonjour monsieur. Le Burkina est le premier producteur de karité au monde. La Conférence nationale karité veut transformer ce potentiel en richesse. Elle organise depuis ce jeudi à Ouagadougou la deuxième édition du Salon international de karité de Ouagadougou, SICO, sous le thème « Faire de la transformation des produits de karité un des principaux leviers de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté des femmes et des jeunes en contexte de Covid-19 ». Près d'une centaine d'exposants participeront à la foire du karité. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Ghislaine Zimbané et Emilienne Compaoré avec la voix de Asma Odao.
De premier produit d'exportation du Burkina Faso dans les années 1960, la filière karité est passée au sixième rang aujourd'hui. Le Salon international du karité a pour objectif d'accompagner les acteurs de la filière afin de contribuer à la création d'emplois et participer à accroître l'économie nationale, déclare le ministre de l'Environnement, Siméon Sawadgo.
La filière karité est une filière porteuse sur laquelle le gouvernement s'appuie la création d'emplois verts. Nous pensons qu'avec cette filière, nous pouvons avoir environ plus de 600 000 emplois verts, donc vont intéresser principalement donc les femmes et les jeunes. Mais au-delà de cet aspect emploi, c'est également quelque chose qui participe à la production de richesses au Burkina Faso. Parce que comme dirait donc l'Alliance globale Karité, dont le siège est à Accra, le Burkina Faso est le premier producteur de la matière première karité, mais en exportation. Mais nous n'arrivons pas à faire la transformation ici pour avoir une valeur ajoutée qui permet donc effectivement d'avoir beaucoup plus de débit.
À l'ouverture de ce salon, Théophane Bougma, le président de l'interprofession Karité, plaide pour un soutien financier afin d'accroître la filière Karité.
Notre interpellation aujourd'hui, c'est que les autorités nous accompagnent à pouvoir mettre en place des unités de transformation. L'industrie du karité ne saurait se développer s'il y a à la base une industrialisation forte, une transformation de tous les produits du droit du karité. C'est pourquoi nous avons interpellé le gouvernement par rapport à une éventuelle journée nationale de consommer verre de karité.
Le Burkina Faso occupe le premier rang mondial en termes de production de karité. Le pays possède plus de 280 millions de pieds adultes de karité, couvrant 70% du territoire national.
La septième édition des journées économiques du Burkina Faso à l'extérieur a été officiellement lancée jeudi dernier à Ouagadougou par le ministre délégué en charge du commerce. Ces journées qui se tiennent sous le thème « Stratégie de relance de l'économie burkinabé, quelle opportunité pour les investisseurs » devront à terme contribuer au renforcement du courant d'affaires entre le Burkina Faso et les 6 pays d'accueil de cette édition. Régis Bonny pour le compte-rendu.
Les journées économiques du Burkina Faso sont une initiative permettant de mettre en exergue le savoir-faire de nos entreprises nationales et constituent une occasion d'interaction avec les partenaires étrangers du Burkina Faso. Louise Ango, ministre déléguée en charge du commerce.
Il faut dire que ces journées économiques du Burkina Faso sont une occasion d'échange avec des partenaires étrangers sur nos priorités et également sur les opportunités d'affaires qui peuvent exister entre les différents pays et qui peuvent être également avantageux pour les différentes parties. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, CEGEB s'organise de manière, à travers des rencontres B2B entre les différents hommes d'affaires et également entre le gouvernement et les investisseurs burkinabés qui sont à l'étranger, la diaspora.
Faire la promotion de la destination Burkina Faso afin d'attirer les investisseurs au pays des hommes intègres, telle est la raison pour laquelle le PDG de Coris Holding a accepté parrainer la présente édition. Idrissa Nassa.
Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que nous accompagnons la tenue de cette journée économique du Burkina Faso, qui se tient, comme vous l'avez constaté, en mode présentiel et virtuel, ce qui constitue donc une démonstration de résilience de notre économie. Et c'est surtout en des périodes difficiles que nous devons faire la promotion de la destination Burkina Faso. Et aujourd'hui, dans cette période de pandémie et de sécurité difficile, on aurait pu dire qu'il ne faut plus faire la promotion. Mais c'est surtout maintenant que nous devons faire la promotion et en démontrant notre capacité à tenir quand même ces GEP malgré le contexte est une excellente chose. Et nous, nous avons tenu à accompagner cette édition 2021.
Ces journées permettent de créer de meilleures conditions d'établissement de liens d'affaires mutuellement avantageux entre les opérateurs économiques burkinabés et ceux de la Belgique, du Brésil, de l'Italie, du Luxembourg, de la Russie et de la Turquie, pays d'accueil de cette présente édition.
Ce vendredi s'est tenue la conférence annuelle de gestion des ressources humaines. Le thème retenu pour cette édition est le conseil de discipline, état des lieux et perspectives. Cette réflexion vient en réponse à la montée en puissance de l'incivisme administratif qui entraîne une baisse drastique de la productivité publique. Abdulaziz Zoulabou.
Détournement de deniers publics, actes de violence physique ou verbale sur le lieu de travail, actes de corruption, manquement à la déontologie des emplois. Voilà autant de mots qui minent l'administration publique. Cette session va donc offrir l'occasion de faire un diagnostic profond sur le dysfonctionnement des conseils de discipline. Charlemagne Ouédraogo, représentant du Premier ministre, patron de la cérémonie.
Ce que nous attendons de cette conférence, c'est qu'un certain nombre de règles puissent être revisitées et que les agents de l'État puissent s'en inspirer dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez très bien que nous avons un certain nombre de dérives sur le terrain, des détournements, de la concussion, du harcèlement, et un certain nombre de comportements qui ne font pas honneur à l'État, qui ne font même pas honneur aux agents. Et nous avons voulu que les règles élémentaires de l'éthique et de la déontologie soient au centre de cette conférence.
Redynamiser et donner un nouvel élan à l'administration publique, tel est l'objectif de cette rencontre annuelle institué depuis 2009. Marcel Ouédraogo, directeur général de la fonction publique.
On n'en prend pas du plaisir à sanctionner quelqu'un, mais ce sont des règles qui sont mises pour que ça marche. Et lorsque ces règles ne sont pas respectées, ça décourage ceux-là qui sont de bonne volonté, qui veulent travailler et qui se rendent compte que, bon, il y a une impunité qui règne autour. Donc il est vraiment nécessaire aujourd'hui que nous puissions redynamiser les conseils de discipline afin de donner un nouvel élan à l'administration publique.
La fonction publique compte un peu plus de 200 000 agents, d'où une certaine lenteur dans la gestion de leur carrière. Ainsi, ce document soumis à la réflexion des participants permettra de faire une proposition de piste de solution pour une efficacité en la matière.
L'Université de l'Unité africaine a fait sa rentrée scolaire ce jeudi à Ouagadougou, une occasion d'accueil des nouveaux étudiants. Les meilleurs étudiants, eux, ont été récompensés. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans le respect strict des mesures barrières, compte rendu Valérie Guéret.
Retour de classe pour les anciens, premier pas pour les nouveaux, c'est jour de rentrée à l'Université de l'Unité africaine. Accueil chaleureux des nouveaux étudiants et des lauriers pour les majors de promotion. Nassiratou Kongo, major en licence transport logistique.
On a vraiment lutté la compétition ailleurs, mais vraiment pour être major. Les devoirs, on a deux devoirs plus une composition, bon, un examen. Et c'est franchement pas facile. Il faut suivre les cours. Après, il faut approcher les professeurs. Ça fait quand même plaisir.
Situation de COVID-19 oblige, le lavage des mains et le port de cache-nez sont obligatoires pour les étudiants avant d'accéder à l'enceinte de ce temple du savoir. Pour l'occasion, le président du conseil d'administration a invité tous les étudiants à se faire vacciner. Moussa Ahmed Diallo, président du conseil d'administration de l'Université de l'Unité africaine.
Vous êtes obligés de laver vos mains et dans les classes, les gestes barrières sont respectés. Et nous invitons fortement aussi les étudiants à se faire vacciner. Je vous informe au passage que l'ensemble des personnels de IAM, l'Université de l'Unité africaine, est vacciné.
Pour cette rentrée académique, environ 1 000 000 d'étudiants se sont inscrits à l'Université de l'Unité africaine et le nouveau recteur compte impliquer tout le personnel dans l'élaboration d'un plan stratégique.
Le Festival international de la liberté d'expression et de presse FILEP va se tenir du 10 au 13 novembre prochain dans la capitale burkinabé. Les organisateurs ont déballé le chronogramme des activités de la 9e édition ce jeudi au cours d'une conférence de presse tenue au centre de presse Norbert Zongo. Des innovations majeures sont annoncées pour cette 9e édition. Plus de 100 candidatures sont déjà enregistrées. Compte rendu, Pierre Badolo.
Cette 9e édition va se tenir sous les thèmes en rapport avec l'actualité de ces dernières années, ayant constitué des entraves à la liberté d'expression et de presse. Les sujets qui seront abordés sont ceux liés au traitement de l'information en ces temps de crise multiforme au niveau mondial, sur le continent africain et en particulier au Burkina Faso. Siriki Dramé, président du comité de pilotage du FILEP.
Il y a des confrères éminents qui viendront d'Afrique, même du reste du monde, pour animer les panels du colloque avec le thème que j'ai évoqué là, qui est très intéressant. Il y a la crise sécuritaire, la crise sanitaire, les médias qui sont en danger. Si vous voyez, depuis 2020, avec l'apparition de la pandémie, les médias ont pris un grand coup quant à leur survie même en tant qu'organe et aussi de fonctionnement.
Des innovations majeures sont prévues en cette année et parmi lesquelles le prix Norbert Zongo qui prend une dimension d'envergure. Siriki Dramé.
Une activité majeure, c'est le prix Norbert Zongo, journaliste d'investigation, qui a pris une autre dimension et cette année. Il a même changé d'appellation. C'est désormais le prix africain du journaliste d'investigation, Norbert Zongo, TIGNZ. Nous avons eu des partenaires qui ont permis de donner une autre dimension à ce grand prix d'investigation, Norbert Zongo, dont l'institution est liée aussi à la création du FILEP.
Le FILEP se veut le carrefour de la presse nationale et internationale. Ce concours qui se veut dans le sens des innovations de la liberté de presse est un événement qui regroupera désormais des festivaliers du continent africain dans plusieurs catégories. Le FILEP 2021 est placé sous le thème « Au carrefour des crises sanitaires, sécuritaires, politiques et des mutations technologiques, construisons des médias résilients au service des citoyens africains ».
Parlons éducation à présent. Au titre de la présente rentrée scolaire 2021-2022, l'AFD offre 52 salles de classe à la région du Centre-Est, 48 à celle du Centre-Nord et 41 au Centre, d'un coût global de plus de 2 milliards de nos francs. Ce don vient booster les efforts du ministère de l'Éducation nationale en matière de mise en disposition des populations d'infrastructures éducatives modernes, de qualité et surtout durables. Jeudi dernier, le ministre de l'Éducation nationale était en tournée dans la région du Centre-Est où il a visité et inauguré quelques réalisations. Le point avec Judith Traoré.
Le collège d'enseignement général du village de Malanga-Naksore, localité située à 25 km de Tenkodogo, a constitué la première étape de cette série de visites. Il est composé de 4 salles de classe équipées et électrifiées par un dispositif photovoltaïque, de 2 blocs de latrines, d'une bibliothèque, d'un bâtiment administratif et d'un forage. Autre CEG visité, c'est celui du village de Nakaba dans la commune de Baskouré, province du Kuritenga, identique à celui de Malanga-Naksore. Ces joyaux qui réjouissent les bénéficiaires s'inscrivent dans le cadre d'un projet pilote axé sur le suivi citoyen. Stanislas Waro, ministre de l'Éducation nationale.
Nous avons travaillé à impliquer les communautés à la base à travers ce que nous avons appelé les comités locaux de projet qui regroupent donc les populations, c'est-à-dire les comités de gestion des établissements scolaires, les associations des parents d'élèves, les associations des mères éducatrices.
Pour un suivi efficace des travaux de construction, les membres du comités ont été outillés en la matière. Ce suivi citoyen présente de nombreux avantages selon Stanislas Ouarou.
Tout ça permet donc à la communauté de suivre au fur et à mesure et d'attirer l'attention des responsables de projet sur des malfaçons éventuelles. Et ça a eu pour avantage la réalisation d'infrastructures de qualité. Et c'est extrêmement important aujourd'hui où l'actualité est dominée par la dégradation d'infrastructures publiques, parmi lesquelles donc une bonne partie est constituée d'infrastructures scolaires.
Le contrôle citoyen sera désormais inscrit dans tous les projets de construction d'infrastructures scolaires, selon le ministre Stanislas Ouarou.
Au Mali, les assises nationales de la refondation débuteront le 25 octobre dans toutes les communes du Mali et prendront fin le 21 novembre prochain à Bamako. Il s'agit donc des assises nationales de refondation voulues par le Premier ministre de transition Choguel Maïga et tant décriées par la classe politique. Après des mois d'attente, le gouvernement a enfin fixé les dates de ces consultations censées préparer les grandes réformes politiques et institutionnelles à venir. En Libye, des gardes ont tué par balle 6 migrants ce vendredi dans un centre de rétention à Tripoli. C'est ce que rapporte le chef de la mission de l'Organisation internationale pour la migration en Libye, cité par l'agence Reuters. Selon des témoins, de nombreux migrants ont réussi à s'échapper du centre dans lequel plus de 5000 personnes, en grande majorité originaires d'Afrique subsaharienne, étaient entassées depuis plusieurs jours dans des conditions insalubres. Ils étaient retenus dans ce centre après des coups de filet des services de sécurité libyens.
Omega Sport.
Sport, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les étalons étaient opposés hier aux requins de la mer Rouge de Djibouti. Après un temps d'observation, les étalons ouvrent le score à la 45e minute de jeu avant de gagner les vestiaires grâce à Abdoul Faisal Tapsoba. De retour des vestiaires, les protégés de Kamou Malo continuent le pressing sur leurs adversaires. Abdoul Faisal Tapsoba s'offre un doublé à la 48e minute et à la 50e, Issa Kabore signe le troisième but des étalons. Le quatrième but burkinabé est signé Mohamed Konaté à la 60e minute. Avec cette victoire, les étalons reprennent confiance dans cette course qualificative pour le Mondial 2022. Cette équipe est en construction, donc logique satisfaction de l'entraîneur national Kamou Malo.
Quelle que soit la manière, on l'a dit même en conférence de presse que même à 1-0, on était partant, on était preneur. Alors les garçons ont marqué jusqu'à 4 buts, c'est à saluer. Même si nous savons qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire parce que c'est une équipe en construction. Vu que ce soir, on a joué sans certains éléments qui nous avaient donné satisfaction au regroupement passé, qui malheureusement aujourd'hui n'était pas de la partie parce que ayant soit malade ou ayant eu des bobos. Alors donc, je pense que quand on est satisfait du résultat. On dit que l'appétit vient en mangeant. Quand nous-mêmes, vous voyez que la réaction des garçons, ils n'ont pas montré, en tout cas une joie excessive, parce qu'ils se disent eux-mêmes qu'il y avait la place pour mieux faire. Ça, c'est en football. Mais à un moment donné, on cherchait simplement un but. Alors je pense que 4, c'est à saluer. Et c'est ce que je dis, même si nous sommes conscients qu'en tout cas, il reste beaucoup de travail à effectuer. Pour prétendre vraiment être une bonne équipe.
Pour le double but de ce match, Abdoul Faisal Tapsoba, le dernier match contre l'Algérie sera très décisif.
Voilà, c'était un match difficile. En première mi-temps, c'était un peu compliqué parce que l'équipe du Djibouti qui est venue défendre, qui ne sortait pas, c'était un peu compliqué de trouver des espaces. Et voilà, après le but à la fin de la première mi-temps qui a permis de créer des espaces, le Djibouti qui s'est plus projeté vers l'avant et on avait plus d'espace pour tuer le match. Et voilà, on est content et comme on a dit, c'est une course. Et la course, c'est contre l'Algérie, pas contre le Djibouti, pas contre le Niger. Et voilà, c'est un peu ça. Si on peut mettre 10, il faut en mettre 10 parce que après c'est des calculs chinois et tout. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est vrai que le dernier match sera décisif contre l'Algérie, mais je pense que le prochain match contre les Djibouti, il faut essayer encore de mettre encore plus d'énergie pour élever le score.
Ce dernier match contre Djibouti, comptant pour la quatrième journée, est prévu pour ce lundi. 11 octobre au Grand Stade de Marrakech à partir de 16h. Toujours dans le groupe A au stade Sénou Kounché de Niamey, les Fenech d'Algérie sont allés dicter leur roi sur le Mena du Niger, 6-1, et conservent toujours la tête du classement avec 7 points au compteur et une différence de but de plus 13, soit 7 de plus que le Burkina qui compte également 7 points, mais un goal différentiel de plus 6. Le Niger est 3e avec 3 points et Djibouti ferme la marche avec 0 point. Les autres résultats de cette soirée, les éléphants de Côte d'Ivoire ont disposé de Malawi sur ses installations par 3-0. L'Angola bat le Gabon 3-1, un match perturbé par une histoire de test Covid et qui a finalement débuté avec 1h30 de retard. 3-1 également, c'est le score qui a sanctionné la rencontre Cameroun-Mozambique. Enfin, l'Égypte prend du poil de la bête en disposant du leader surprise, la Libye, par 1-0 et reprend la tête du groupe F. Aujourd'hui, nous aurons 4 matchs pour le compte de cette phase aller des éliminatoires. Éthiopie, Afrique du Sud à 13h et Ghana, Zimbabwe à 16h dans le groupe G. Togo, Congo à 16h, Sénégal, Namibie à 19h dans le groupe H. Pour le compte de la 4e journée et phase retour, la Guinée reçoit le Soudan à 13h et la Guinée-Bissau sera face au Maroc à 19h. Place à l'édito de ce jour qui se penche sur l'attaque de Yirgou. Quelques 5 jours après le drame, on se pose toujours des questions sur les circonstances de cette attaque qui a coûté la vie à 14 soldats. Votre éditorial est signé Wezan Lioulon.
Yirgou, épisode 2, la série du film sur le terrorisme continue de dérouler son intrigue. Comme à Koutougou en 2019, 24 morts, ils ont surpris nos soldats au petit matin dans leur sommeil sans doute. Ils ont fait descendre le feu sur le détachement militaire de Yirgou qui n'a pu contenir la furie des assaillants. 14 soldats fauchés, 7 blessés, mourir quasiment sans combattre. On a mal à entendre des nouvelles du genre. C'est à croire que nos soldats n'ont pas encore pris toute la mesure du problème. Que s'est-il passé dans cette localité? La veille pourtant, une alerte faisait état de mouvement de groupes terroristes en voiture et sur des motos en binôme venant du Mali. Il faut définitivement des explications. Des sentinelles à 500 mètres, à 1 km et des alerteurs dans les villages voisins auraient permis simplement de prendre ces gens dans un entonnoir de flammes. C'est dommage, mais jusque-là, on a l'impression que l'armée burkinabé est dans la stratégie de la dissuasion. Bander les muscles pour effrayer en se disant que la présence d'un détachement militaire ferait peur à l'adversaire, qu'une colonne de pick-up dans un convoi d'escorte suffit pour éloigner l'ennemi. Yirgou, Gorgadji sont les récentes illustrations parfaites que les groupes terroristes sont dans une logique d'affrontement et ne veulent que le face-à-face. Et c'est le recours au matériel de défense aérienne emporté lors de l'attaque dernière qui intrigue. Que fout un tel armement au front quand on sait que l'ennemi n'a pas d'avion? Exactement comme cette démonstration d'orgue de Staline au premier semestre de 2021, soigneusement filmée par l'armée et mise à disposition de la presse, en train de vomir de gros obus dans le sable sahélien contre des jeunes gens à moto. Qu'on ne nous dise pas que les soldats sont sous-équipés, avouons-le, il y a des moments où l'équipement est mal utilisé. Le matériel de défense aérienne récupéré à Yirgou est un merveilleux et précieux butin de guerre pour les terroristes, une menace pour la flotte de l'armée dont les hélicoptères apportent énormément dans le conflit. Certaines stratégies et tactiques ne sont pas aussi toujours adéquates. En face, ce sont des adolescents avec des chaussures léquées, sans gilet pare-balles, sans casque, ni protège genoux et rangers, qui donne du fil à tordre à l'armée régulière. S'enfermer dans un camp, sans mettre en place des verrous d'alerte, de sentinelles en position avancée, implémenter un détachement dans un village, sans mettre en place un réseau de renseignement sur un rayon de 20 km et plus, revient à préparer un suicide collectif de la troupe. Le front n'est pas un terrain de balade et nos soldats doivent savoir qu'il ne s'agit pas d'être en alerte 2 jours et dormir les jours après, les poings fermés la nuit venue, et de jouer aux cartes et boire du thé, mais de rester en alerte et en permanence.
Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Adama Konaté. Merci de l'avoir suivi.